suite le journal. Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Donald Trump et Kim Jong-un ont conclu aujourd'hui leur sommet consacré au dossier de la dénucléarisation de la Corée du Nord, sans parvenir toutefois à un accord. Le président américain a notamment souligné qu'il avait décidé de partir du fait de divergences sur les sanctions imposées aux pays reclus. Pas de percée diplomatique donc, et pas davantage de chance non plus pour le chef de la Maison-Blanche de détourner désormais l'attention de ce qui se passe à Washington, où son ex-avocat Michael Cohen a livré hier devant le Congrès un témoignage explosif contre le président américain.
Dans votre journal, Thomas Cluzel, vous évoquerez également un rapport accablant contre l'État hébreu.
Oui, ce matin, la commission d'enquête de l'ONU sur la riposte d'Israël face aux manifestations l'an dernier à la lisière de la bande de Gaza pointe de possibles crimes de guerre de la part des forces israéliennes. L'Inde et le Pakistan, de nouveau au bord du conflit ce matin, après que des tirs ont été échangés entre soldats des deux pays le long de la ligne de démarcation au Cachemire.
Au procès de Medine Mouche, la défense du djihadiste français détaille aujourd'hui sa version des faits.
En clair, il ne serait pas le tueur du musée juif de Bruxelles, mais se serait retrouvé mêlé à un complot visant des agents du Mossad, une défense jugée profondément stupide par l'accusation.
La polémique autour des tableaux de Léonard de Vinci, que l'Italie s'était engagée à prêter au musée du Louvre pour l'exposition marquant cette année les 500 ans de la mort du peintre.
Le ministre français de la Culture, Franck Riester, doit rencontrer aujourd'hui à Milan son homologue de la péninsule. Enfin, dans une vingtaine de minutes, l'invité politique de la rédaction aujourd'hui, Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Une plongée dans le secteur des services à la personne, fruit de politique publique, un vrai choix politique, nous dira notre invité qui est l'auteur d'un livre à ce sujet, Le retour des domestiques. Nous recevons l'économiste Clément Carbonnier à partir donc de 12h55.
Merci et à tout à l'heure. Si la photo de leur première entrevue inédite l'été dernier leur avait permis de rentrer dans les livres d'histoire, il semble que Donald Trump et Kim Jong-un aient en revanche beaucoup plus de mal à écrire ensemble les premières lignes de ce nouveau chapitre des relations entre les États-Unis et la Corée du Nord. En dépit des nouvelles images de leur promenade complice dans les jardins de l'hôtel et malgré une réunion décrite comme constructive, ce deuxième sommet se sera en effet conclu comme le premier, c'est-à-dire sans accord. Dominique André, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes notre envoyé spécial à Hanoï. Alors durant ces deux jours, c'est vrai qu'on ne pourra pas reprocher aux deux dirigeants de ne pas avoir tout fait pour afficher à grand renfort d'amabilité leur bonne volonté, mais qu'en ressort-il au final? Peut-on, Dominique, parler d'échec?
Bien, la Maison-Blanche essaie en tout cas de tempérer cet échec. Donald Trump, l'homme qui n'était pas pressé de signer un accord, est reparti pour Washington l'air fatigué et avec les mains vides. Le sommet a été écourté, aucune déclaration commune n'a été signée et même le dîner dans le luxueux hôtel Métropole a été annulé. Alors il faut parfois quitter la négociation, a lancé Trump devant la presse. Le président américain impute toutes les raisons de cet échec aux exigences de Kim Jong-un, qui reste néanmoins son ami. On n'a pas rompu de manière agressive, on s'est serré la main, a-t-il souligné, mais les choses sont dites.
Sur le fond, ils voulaient la levée totale des sanctions. Mais nous ne pouvions pas accepter cela. Nous ne pouvions pas tout lever comme cela, alors qu'ils étaient prêts seulement à une dénucléarisation partielle. On va donc continuer de travailler, mais là, on a dû s'interrompre.
Alors, va-t-on assister à la suite de cet échec à Hanoï à une reprise des essais nucléaires nord-coréens qui avaient été arrêtés depuis 2017? Kim Jong-un n'aurait pas l'intention de les reprendre. Il l'a promis. J'ai confiance en lui, a dit Donald Trump. Reste que l'avenir est bien incertain, bien que Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain, évoque des progrès réels enregistrés. Aucun calendrier n'est annoncé pour la poursuite des négociations et un troisième sommet Kim-Trump n'est pas du tout à l'ordre du jour.
Merci Dominique André en direct de Hanoï ainsi qu'à Frédéric Quéroux pour les moyens techniques. Alors en quittant le Vietnam tout à l'heure, le président américain a lancé « Je suis sur le point de m'envoler vers un endroit merveilleux appelé Washington DC ». Était-ce là un trait d'humour? Toujours est-il que le président américain s'apprête surtout à rejoindre un terrain miné après que son ancien avocat Michael Cohen a livré hier devant le Congrès un témoignage explosif contre lui en remettant sur la table certaines des plus grosses affaires qui empoisonnent le mandat de Donald Trump. Michael Cohen a agonisé son ancien patron de reproches aussi accablants que raciste, escroc et tricheur. Évidemment, certains diront que ces déclarations sont malheureusement à l'image de la tragicomédie surréaliste qui se joue depuis déjà plus de 2 ans maintenant sur les planches de la Maison Blanche. D'autres feront remarquer que beaucoup des thèmes et allégations de son témoignage choc ne sont au fond que la confirmation des soupçons maintes fois suggérés, davantage que des révélations. Enfin, la question reste évidemment posée de savoir pourquoi et comment Michael Cohen a-t-il pu travailler 10 années durant au service d'un homme d'affaires devenu chef d'État pour qui il se disait même prêt à prendre une balle et pour lequel il semble n'avoir au final qu'assez peu de considération. Seule certitude, même à l'aune d'une présidence passionnelle, l'audition hier de Michael Cohen restera un moment politique extraordinaire. Quant au fait de savoir si elle sera de nature à bouleverser la fin de mandat de Donald Trump, Nadine Epstein a posé la question à Jean-Éric Branaha, maître de conférence à Paris Assa, spécialiste des États-Unis.
Cette audience de Michael Cohen est la fin d'une chaîne qui est l'enquête sur la collusion entre l'équipe de campagne de Donald Trump et la Russie, alors que le procureur Mueller s'apprête à rendre son rapport. Mais cette enquête est également le début d'une autre chaîne qui va certainement succéder à la première, qui est une série d'enquêtes qui vont être lancées par la Chambre des représentants, puisque les démocrates ont maintenant la majorité dans cette chambre et qu'ils ne vont pas se priver, bien sûr, de poursuivre Donald Trump sur différents sujets qu'il est taraude depuis un moment. Donc à court terme, la première conséquence, bien sûr, c'est de pourrir à nouveau le climat politique américain, de relancer les tensions et la polarisation dans la société américaine.
Est-ce que les démocrates vont aller jusqu'à une procédure de destitution ?
La procédure de destitution, c'est exactement la même chose qu'on avait soulevé après l'audition de James Comey le 8 juin 2017. James Comey, l'ancien directeur du FBI, qui avait été évincé de son poste assez brutalement et qui, de la même façon, avait fait une déposition devant le Congrès, aussi médiatique d'ailleurs. On avait pensé à ce moment-là que les révélations conduiraient à la destitution du président. Beaucoup ont soulevé la même hypothèse concernant cette déposition. Dans les deux cas, on se rend compte que ceux qui viennent témoigner n'ont pas grand-chose à apporter de nouveau par rapport à ce qui était connu et surtout qu'ils n'ont pas de preuves. Ils émettent des doutes, ils parlent de leur impression. On est encore dans le régime de la rumeur, ce qui ne permet pas de lancer une procédure d'impeachment. En revanche, ça rajoute à ce climat assez délétère et on sait que la plupart des démocrates qui se sont fait élire en novembre 2018 ont promis cet impeachment à leurs électeurs. Donc on peut s'attendre qu'à effectivement ce soit une pierre qui permet de se rapprocher de cet impeachment.
On a Eric Branaha, maître de conférence à Paris Assa, s'il répondait à Nadine Epstein. Une autre affaire à présent qui empoisonne depuis 3 semaines maintenant le gouvernement de Justin Trudeau. Hier, l'ancienne ministre de la Justice a affirmé avoir été victime de pressions constantes et soutenues de la part de l'entourage du Premier ministre pour éviter un procès à une société québécoise de BTP engluée dans une affaire de corruption en Libye. Il y a 10 jours déjà, le plus proche conseiller politique de Justin Trudeau avait lui annoncé sa démission afin de se défendre dans cette même affaire qui décidément s'annonce explosive à quelques mois seulement d'élections législatives serrées. Le chef de file de l'opposition vénézuélienne Juan Guaido est arrivé au Brésil pour y rencontrer aujourd'hui le président Jair Bolsonaro dans le cadre d'une tournée destinée à accentuer la pression sur le président en exercice, Nicolas Maduro. Par ailleurs, le Conseil de sécurité de l'ONU est appelé à voter ce jeudi sur 2 projets de résolution concurrents. Le premier, porté par les États-Unis, réclame la tenue d'élections et la livraison d'aide humanitaire au Venezuela. Le second émane de la Russie en opposition frontale avec Washington sur cette question de résolution a priori vouée à l'échec compte tenu de leurs droits de veto respectifs. C'était il y a un peu plus d'1 an, des manifestations étaient organisées chaque vendredi à la lisière entre la bande de Gaza et l'État hébreu en faveur d'un assouplissement du blocus du territoire palestinien et de la reconnaissance du droit des réfugiés à regagner leur région d'origine en Israël. 189 Palestiniens avaient été tués et plus de 6000 autres blessés. Ce matin, la commission d'enquête indépendante des Nations Unies rendait son rapport. Il en ressort que les forces de sécurité israéliennes auraient peut-être commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Comme attendu, les autorités israéliennes parlent, elles, d'un rapport hostile, mensonger et biaisé. Les précisions à Jérusalem d'Étienne Monin.
Ce rapport contredit intégralement les justifications israéliennes. La commission considère qu'il y a eu un usage disproportionné et inadmissible de la force en violation avec le droit international. Les manifestations à Gaza ont drainé des dizaines de milliers de personnes. Elles ont lieu toutes les semaines contre la frontière depuis presque un an. Elles témoignent du désespoir dans l'enclave. Elles sont instrumentalisées depuis cet été par le Hamas. Elles ont été violemment réprimées par l'armée israélienne. D'après le rapport, les forces de sécurité israéliennes ont tué et mutilé des manifestants palestiniens qui ne posaient pas de menace imminente. Certaines victimes étaient à plusieurs centaines de mètres de la frontière, des personnes censées être protégées par le droit international, comme les enfants, les femmes, les journalistes et les sauveteurs ont été touchées. Pour la commission, même l'appartenance de certains Palestiniens à des groupes armés ne justifie pas les tirs. Un seul incident, d'après le rapport, a pu constituer une menace. La commission considère qu'Israël devrait enquêter sur ces faits. Certaines des violations peuvent donner lieu à des poursuites en droit local et international. Des civils et des responsables militaires israéliens pourraient porter la responsabilité. Ces conclusions devraient être versées à la Cour pénale internationale. Israël a refusé l'accès à son territoire et à Gaza à la commission et elle rejette ces conclusions.
Des tirs ont à nouveau été échangés brièvement ce matin entre soldats pakistanais et indiens le long de la ligne de démarcation au Cachemire et ce, au lendemain d'incidents lors desquels des avions des deux camps ont été abattus. Alors jusqu'où seront prêts à aller les deux frères ennemis dans cette crise entretenue depuis plus de 70 ans autour de la région disputée du Cachemire? Ce matin, le Pakistan s'est dit prêt à libérer demain le pilote indien capturé, ce en guise de geste de paix. De son côté, le Premier ministre indien s'est lui exprimé pour la première fois depuis 48 heures, il l'a fait publiquement ce matin, mais devant des membres de son parti, ce qui pose des questions sur la probable politisation de cette crise à deux mois des élections législatives. C'est une correspondance à New Delhi du correspondant de RFI pour France Culture, Sébastien Farsi.
Narendra Modi ne s'était pas exprimé publiquement sur cette crise depuis deux jours. Certains considèrent que c'était pour éviter d'en faire une affaire d'État, mais alors que l'Inde et le Pakistan sont au bord de la guerre, sa parole était très attendue. Et de manière surprenante, ce n'est pas devant la nation, comme Premier ministre, mais comme chef de parti et devant les membres du BJP que Narendra Modi a brisé son silence.
L'ennemi essaie de nous déstabiliser en menant des attaques terroristes. Ils veulent arrêter notre croissance. Nous, les Indiens, nous devons être unis comme un roc face à ces plans maléfiques. L'Inde va vivre et grandir unie. L'Inde gagnera ainsi en étant unie.
India will win at one.
L'opposition proteste contre cette intervention du Premier ministre devant des dizaines de milliers de partisans du BJP au lendemain de cette crise et accuse le gouvernement d'utiliser cet enjeu de sécurité nationale dans sa campagne pour les législatives de mai prochain. Et de fait, le dirigeant du BJP dans le Karnataka au sud a affirmé hier que l'attaque de l'armée indienne de mardi contre le Pakistan assurera la victoire de leur parti nationaliste hindou dans cet état.
La France condamnée pour traitement dégradant d'un mineur afghan. La Cour européenne des droits de l'homme reproche à l'État de ne pas avoir pris en charge ce jeune garçon de 12 ans qui avait passé 6 mois dans la jungle de Calais. Au procès de Mehdi Nemmouche, accusé d'être l'auteur de la tuerie du musée juif de Bruxelles qui a fait 4 morts, c'était en mai 2014, la parole est aujourd'hui à la défense du djihadiste. Ses avocats ont entamé ce matin leur plaidoirie, compte rendu d'audience signé de notre envoyé spécial Antoine Marette.
La défense promettait des révélations, voire même un coup de théâtre. Ce matin, elle a d'abord cherché à démonter la diabolisation de Mehdi Nemmouche. Mehdi, c'est la bête immonde, il faut lui cracher dessus et si vous ne le faites pas, vous êtes assimilé à lui. « Je suis bien placé pour le savoir », affirme Maître Courtois. L'avocat persiste. Mehdi Nemmouche n'est pas le tueur du musée juif de Belgique. Il promet une farandole de preuves. Le tueur a deux sacs. La propriétaire du logement de Mehdi Nemmouche croise son locataire avec trois sacs venant du chemin opposé à celui du musée. Sur le chemin de fuite, Mehdi Nemmouche n'est sur aucune caméra. On dit que les caméras étaient mal orientées. Ça aurait pu l'innocenter, regrette l'avocat. Le propriétaire donne le code Wi-Fi du logement à Mehdi Nemmouche le 24 mai. Les recherches incriminantes sur son ordinateur sont effectuées la veille. C'est donc une autre personne qui a utilisé l'ordinateur, quelqu'un qui a cherché à piéger Mehdi Nemmouche. Concernant la vidéo de revendication de l'attentat, la personne qui s'exprime est un handicapé linguistique. En 5 minutes, il a fait 8 fautes, constate Maître Courtois. Ça ne peut pas être Mehdi Nemmouche qui, pendant ses auditions filmées menées lors de sa garde à vue, a un français impeccable. Tout au long de la matinée, l'avocat met la pression sur les jurés. Il leur répète à l'envi « La vie d'un homme est en jeu ». Fidèle à sa réputation, il multiplie les incidents pour assurer le show. À un moment, il s'emporte contre les procureurs qui commandent sa plaidoirie. « Je n'ai pas besoin du Muppet Show dans mon oreille. J'ai eu la décence de ne pas venir pendant votre réquisitoire. Si c'est nerveusement intenable, retournez dans votre bureau. » Et il conclut avec un ton goguenard. « C'est fait exprès pour m'énerver et le pire, c'est que ça marche. »
Un compte-rendu d'audience donc signé Antoine Marette ce matin. Quand les populistes italiens accusent les Français de vouloir s'approprier Léonard de Vinci, la polémique autour des tableaux du peintre que l'Italie s'était engagée à prêter au musée du Louvre pour l'exposition marquant cette année les 500 ans de la mort de l'artiste devrait à nouveau rebondir avec la rencontre prévue aujourd'hui à Milan entre le ministre français de la Culture, Franck Riester, et son homologue de la péninsule, Cécile de Kervès-Douai, bonjour.
Bonjour.
Alors peut-être pour commencer, faut-il rappeler ce qui explique aujourd'hui que nous en soyons à un tel niveau de crise quasi diplomatique.
C'est une déclaration de la sous-secrétaire d'État à la culture italienne, membre de l'extrême droite au pouvoir, qui a déclenché la crise le 17 novembre dernier. Les Français ne peuvent pas tout avoir, avait déclaré Lucia Borgonzoni. Selon un accord conclu en 2017 avec le précédent gouvernement italien, 4 musées transalpins devaient prêter au Louvre leurs œuvres de Léonard de Vinci en état d'être transportés. En échange, le Louvre prêtait lui cette année 2 dessins de Léonard de Vinci et promettait de prêter l'année prochaine des œuvres de Raphaël, dont c'est l'anniversaire en 2020. Mais au Corriere della Sera, la sous-secrétaire d'État italienne avait prévenu « Léonard est italien, le prêt de ses tableaux au Louvre placerait en plus l'Italie à la marge d'un événement culturel majeur ». De quoi provoquer l'incompréhension de la France qui avait précisément organisé l'exposition du Louvre à la fin de l'année pour permettre à l'Italie de faire la sienne et qui pensait que l'accord de prêt était plutôt équilibré.
Alors dans cette crise diplomatique, Cécile, il y a en réalité un aspect psychologique également, un contentieux historique en réalité, que vous a expliqué Frédéric Dubard de Gaillard-Bois. Elle est professeure à la Sorbonne, spécialiste de la Renaissance italienne.
C'est pas un hasard parce que c'est effectivement une vieille histoire, qu'il y a cette idée que les œuvres ont toujours été des prises de guerre, elles ont pu être des trophées si vous voulez, qu'il y a un précédent important en Italie, en particulier avec Napoléon, c'est qu'avec les guerres napoléoniennes, Napoléon a rapporté, mais je crois, près de 500 toiles italiennes en France. Donc il y a une sorte de syndrome, si vous voulez, napoléonien et une tendance à croire que les œuvres de Léonard auraient été volées, ce qui dans l'espèce est faux. C'est pas du tout le cas des œuvres de Léonard qui ont été achetées, je dirais, de façon très très régulière et même bien achetées.
Et pourtant, du côté italien, on a souvent considéré que le fait que la Joconde soit en France, c'était inacceptable.
C'était inacceptable. Alors il y a même un épisode assez extraordinaire et rocambolesque. En 1911, la Joconde a été volée par un maçon italien qui s'appelait Vincenzo Peruccia. Elle est restée 3 ans en Italie, mais les Italiens ont bien été obligés de la rendre parce qu'effectivement elle avait été acquise très légalement et très régulièrement. Mais il y a cette idée assez curieuse puisqu'on sait que les Italiens n'ont quand même pas un sens national très développé, que à l'époque où vivait finalement Léonard, l'Italie n'existait pas non plus, que Florence a plutôt maltraité, on va dire, Léonard. Mais il y a peut-être un patriotisme culturel, j'allais dire regrettable, en ce sens qu'une œuvre n'appartient pas à un pays, elle appartient à l'humanité.
Alain Frédéric Dubard de Gaillard-Bois, professeur à la Sorbonne, spécialiste de la Renaissance italienne, joint par vous, Cécile de Kervès-Douai. Merci. L'invité politique de la rédaction à présent aujourd'hui, Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France. Bonjour monsieur.
Bonjour monsieur.
Vous êtes en direct et en duplex des Jardins Saint-Dominique, un hôtel particulier parisien. Vous allez recevoir en début d'après-midi vos alliés européens pour l'élection de mai prochain. Vous comptez faire campagne avec l'actuel groupe des conservateurs et des réformistes européens, un groupe, disons, eurosceptique créé à l'origine par des conservateurs britanniques. Et avant de céder la parole à Anne Fauquemberg à vos côtés pour vous interroger, une première question monsieur Dupont-Aignan. Même si, rappelons-le, vous n'êtes pas pour une sortie de la France, de l'Union européenne, est-ce que pour autant l'exemple aujourd'hui britannique avec le Brexit ne tend pas à démontrer combien il est compliqué, ne serait-ce que de réorienter l'Europe ainsi que vous le proposez ?
Oui, c'est vrai, mais vous savez, il n'y aurait pas eu le Brexit si l'Union européenne n'avait pas été aussi inflexible vis-à-vis des Britanniques, notamment des conservateurs, quand ils demandaient des aménagements. Contrôler ses frontières, éviter la concurrence déloyale, ce que demandaient à l'époque les conservateurs. Et ce qu'on oublie de dire aujourd'hui aux Français, c'est que si on avait une Europe beaucoup plus souple, beaucoup moins élargie, qui laisse les nations vivre. Et si l'Europe se concentrait uniquement sur quelques projets, comme Airbus, Ariane, pour le 21e siècle, on n'aurait pas eu le Brexit. Et de même, moi je mène ce combat depuis très longtemps avec Philippe Séguin, j'ai commencé, pour qu'on revienne à une Europe des nations, libre, démocratique, qui travaille, qui coopère entre elles sur des projets concrets. Et je pense que c'est la seule solution entre ce que je dirais le Brexit d'un côté ou le fédéralisme de l'autre.
Alors le groupe CRE, créé donc par les conservateurs britanniques, compte actuellement 19 membres. C'est un groupe qui est censé se modifier, hein, parce que les conservateurs britanniques sont censés évidemment partir. Il va aussi s'élargir, ce groupe, et passer à 24 membres, avec vous notamment, Nicolas Dupont-Aignan, pour la France. Vous vous alliez avec le parti polonais PiS, qui dirige actuellement la Pologne, un pays, je le rappelle, qui est sous le coup d'une procédure d'infraction bruxelloise pour non-respect de l'état de droit. Vous seriez prêt également à accueillir le parti Fidesz du président hongrois Viktor Orban, menacé d'exclusion par le PPE, la droite européenne?
Mais volontiers. En fait, la grande différence avec 2005, vous vous souvenez que j'avais milité peut-être pour le non au référendum, les Français l'avaient voté, comme les Hollandais d'ailleurs, et à l'époque on nous disait toujours en France, bah oui, vous avez voté non, vous avez fait l'avocat du non, mais vous êtes seul en Europe. Et la grande nouveauté, c'est qu'aujourd'hui dans tous les pays d'Europe, des courants eurosceptiques sont soit au pouvoir, soit vont y arriver. Et ça fait un an que je travaille, parce que je suis candidat à l'élection européenne, non pas pour me recaser, moi je suis élu au Parlement national. Comme souvent les Français envoient toujours à Bruxelles ou à Strasbourg ceux qui sont incasables en France. Moi j'ai voulu qu'on ait une autre démarche. Et je présente une liste qui est pas là simplement pour témoigner, qui est pas là pour protester, car tous les Français savent que ça marche pas, mais qui est là pour essayer de reconstruire une Europe solide, avec des partenaires qui sont des eurosceptiques, j'allais dire, modérés, c'est-à-dire pas extrémistes, pas radicaux. Et on a fait un gros travail depuis un an, et c'est la première fois qu'un souverainiste ou un gaulliste rassemble à Paris 24 nationalités de tous les pays, pas seulement le groupe ECR, il y aura, je l'espère, aussi des Italiens de 5 étoiles à terme, il y en aura d'autres, pour qu'on puisse réorienter l'Europe et faire effet de levier au Parlement européen.
Comment vous pourriez être l'arbitre entre le vote des progressistes et le vote des illibéraux, entre la vision européenne affichée par Emmanuel Macron et celle théorisée par Viktor Orban, puisqu'apparemment c'est votre objectif d'arbitrer ce match, c'est ce que vous avez dit en tout cas dimanche dernier.
C'est pas d'arbitrer ce match, c'est qu'enfin je pense qu'on peut avoir au Parlement européen en mai prochain le premier groupe devant le PPE, des ce que j'appelle des républicains actuels qui sont très proches de Macron en fait, et devant les sociaux-démocrates, on peut avoir les eurosceptiques, ce que j'appelle les euro-réalistes, pour une nouvelle Europe, premier groupe au Parlement européen. Et moi, mon ambition, c'est pas de faire comme à chaque fois où les patriotes français sont cornérisés au Parlement européen, et finalement vous votez pour une liste qui défend la France, et puis vous vous retrouvez complètement marginalisés. Ce que je veux, c'est qu'on fasse pression au Parlement européen pour changer la direction de l'Europe. Je prends un exemple très concret, le travail détaché. C'est une concurrence déloyale. Macron n'a pas réussi à le réformer. Mais si on a un groupe avec 200 membres au Parlement européen qui bloque quand il y a la concurrence déloyale, qui dit voilà, travailleurs détachés, pourquoi un Polonais ne pourrait pas venir en France, mais il paye les charges sociales françaises. C'est une révolution. Et ça, ça demande un travail en amont. Et je vois que ça intéresse pas grand monde parce que la campagne des Européennes a du mal à démarrer. Je vous remercie de m'inviter. Parce que j'aimerais que les Français aillent voter en connaissance de cause en mai prochain, en comparant les programmes et les alliés.
Alors, vous n'êtes pas tout seul hein, sur la cible électorale que vous visez. On va quand même dire un mot de Marine Le Pen, qui est actuellement au salon de l'agriculture. Au niveau des sondages, quand même, vous en êtes loin. Vous êtes crédité de 5 à 8%. Elle est créditée de quasiment 20% des intentions de vote. Est-ce que tel un Benoît Hamon qui part en solo aux européennes, vous ne risquez pas de devenir un peu la victime de votre ego, Nicolas Dupont-Aignan?
C'est pas mon ego. Vous savez, déjà, entre 6 et 8%, ça veut dire 6 à 8 députés. C'est un scrutin proportionnel. Il n'y a pas de vote utile. Et puis, à quoi ça sert de voter, par exemple, pour le Rassemblement National, pour avoir des députés cornérisés là-bas qui, finalement, n'ont pas d'influence? Je propose pour la première fois en France une vision de l'Europe, des nations et des projets qui n'est pas celle de la pensée unique, d'une Europe complètement fédéraliste, supranationale, mais qui n'est pas celle du Brexit. Et je pense que les Français ont le droit d'avoir le choix.
Et vous en êtes où de la constitution de votre liste? Par qui vous avez remplacé, par exemple, Emmanuel Gave, la directrice d'un think tank conservateur, que vous avez exclu pour des tweets racistes?
Oh, par des gens très bien, et vous verrez ma surprise, notamment Stéphanie Gibault, lanceuse d'alerte, qui a sorti le scandale de UBS, qui a rapporté des milliards à la France et qui a été persécuté pour ça. Nous aurons des personnalités qui vont incarner à Strasbourg ce que j'appelle le combat pour le bien commun.
Des gilets jaunes aussi, rapidement?
Oui. Oui, bien sûr.
Et financièrement, vous allez faire comment? Votre directeur de campagne nous disait en début de semaine que c'était pas facile d'avoir
un
prêt bancaire. Vous allez avoir recours à des dons privés?
Oui. Non, surtout, les gens de la liste vont financer comme on a toujours fait. Et voyez, il n'y a pas beaucoup d'hommes politiques qui virent quelqu'un pour des propos et qui se privent de recettes financières. Je l'ai fait parce que je préfère avoir moins d'argent, mais être exemplaire.
Ce qui veut dire que vous n'accepterez pas le donateur qui s'appelle Charles Gall et qui est le père...
Et je ne l'accepterai pas et je lui ai remboursé même ce qu'il avait versé.
Merci.
Je crois qu'il faut être cohérent avec ce qu'on défend.
Merci Nicolas Dupont-Aignan d'avoir été en direct dans le journal de France Culture. Et merci à Hélène Langlois et Thibaut Nassine-Ben pour les moyens techniques.
Et merci à vous également Anne Fauquemberg. On termine avec un mot rapide de météo et la fin de l'été hivernal. Globalement, le temps sera partout marqué par le retour des nuages et de la pluie à l'exception des régions méditerranéennes. Les température en légère baisse entre 12 et 18 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Domergue. À 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.